Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Marie, merci de me recevoir parmi vous. Comme vous pouvez voir, la barrière de la langue n'est pas un problème quand on croit dans le même Dieu. Jésus n'avait pas de problème avec ça et on n'est pas censé avoir de problème avec ça. C'est pourquoi je suis là ce soir. Je veux bénir le nom du Seigneur, mais avant je chantais un chant parce que pendant que j'étais dans la salle là-bas, le chant était sur mon cœur et à la maison c'est un chant que je chante beaucoup aussi avec mes enfants. Amen. Donne gloire au Dieu tout-puissant, donne gloire d'un cœur reconnaissant, donne gloire car il a donné Jésus-Christ son Fils. Donne gloire au Dieu tout-puissant, donne gloire d'un cœur reconnaissant, donne gloire car il a donné Jésus-Christ son Fils. Alors que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour moi. Alors que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour moi. Merci.
Amen.
Alors, je travaille à l'école Ligan. Mon mari est pasteur. Il vient de la Côte d'Ivoire et nous avons 6 enfants. Donc, la première va avoir 18 ans au mois de mars et mon bébé a 3 ans et demi. Donc, mais quand même, la première a 18 ans. Après ça, on a un garçon de 9 ans. On a des jumelles de 8 ans. Ensuite, on a un garçon de 5 ans. Lui aussi, c'était son jumeau, mais Benjamin est décédé. Donc, j'ai eu des jumeaux. Puis après, j'ai eu le bébé que j'ai demandé, que Dieu me donne pour me consoler de la perte de mon fils. Quand j'ai rencontré Annie, c'est la première journée, je me souviens, j'ai dit à mon mari, je m'en vais dans une école, habituellement je me présente avec un CV quand je m'en vais quelque part. Donc j'ai fait des études, je suis infirmière de formation, j'ai fait des études universitaires, j'ai un baccalauréat en communication, c'est pour ça que je dis je ne suis pas gênée de parler, donc travailler avec le public, je suis habituée. Mais là j'ai dit à mon mari, je m'en vais dans une école, mon talent vient de Dieu, et je n'ai pas de CV, et je ne peux pas écrire dessus, mon talent vient de Dieu. Donc mon mari a dit, fais confiance à Dieu, laisse les papiers, va seulement. J'ai dit ok. Donc je suis allée, puis en parlant avec Annie, déjà quand je suis rentrée dans l'école, j'ai senti une présence. J'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette école. Déjà j'ai... j'ai senti...
Plus normal.
Ah, en fait, je me suis sentie chez moi, quoi. Je sentais que je rentrais comme à la maison. J'ai dit, mais c'est bizarre. C'est ça. Donc, j'ai tiré la chaise, je me suis assise. Mais j'ai vu Annie, mais je n'ai pas compris que c'est elle que je venais rencontrer. Moi, j'ai dit, ça doit être la secrétaire ici, j'ai donc, je cherchais pour quelqu'un d'autre. Elle dit, non, c'est moi, Annie. J'ai dit, oh, ok, excusez-moi. Donc, depuis la nuit, en parlant comme ça, j'ai réalisé que le Seigneur avait permis que je puisse la rencontrer. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Et moi, c'est une phrase que je dis toujours à mes enfants. Quand elle dit, j'ai rencontré, j'ai fait telle chose par hasard. J'ai dit, avec Dieu, tout est calculé. Le hasard n'existe pas. Alors, moi, je me suis convertie à l'âge de 19 ans. Mais la particularité, c'est que Ma maman était chrétienne. Elle est toujours en vie. Elle a 74 ans. Ma mère, elle est chrétienne. Elle est née dans l'évangile. Mes grands-parents, du côté de ma mère, sont nés dans l'évangile. Mais mon père, lui, c'était un franc-maçon, un rosicrucien. Donc, et ma grand-mère, du côté de mon père, c'était des gens qui, écoutez, en Haïti, ils font des sacrifices, ils offrent leurs enfants. Oui. Ils font tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, là, qu'on peut même pas imaginer qu'un être humain puisse faire. Du côté de mon père, c'était comme ça. Donc, ça fait que ce sont deux opposés qui se sont mariés. Pendant longtemps, j'ai demandé à ma mère, parce que j'avais remarqué un problème au niveau des concordances des dates. Parce que ma mère me disait, je me suis mariée le 24 juillet, mais tu es née en novembre. Et connaissant ma mère, je sais qu'à l'époque, elle s'est mariée à 34 ans, je sais qu'elle était vierge. J'ai dit, comment est-ce que je peux être née en novembre si tu t'es mariée en juillet? Donc, je me suis posé la question. Pendant toute ma jeunesse, de temps en temps, je disais, maman, je pose la question, mais elle ne me répond jamais. Jusqu'à ce que mon père décède en 2010, quand mon père est décédé, la semaine suivante, ma mère m'a appelée et elle m'a dit, il faut t'asseoir, je dois parler avec toi. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pensé que c'était par rapport au décès de mon père, qu'elle était triste et puis tout ça. Et c'est là qu'elle m'explique, elle dit, je sais que tu te posais des questions par rapport aux dates. Elle dit, ton papa, c'est l'homme qui m'a violée. Et parce qu'il m'a violée et qu'à l'époque, on devait tuer l'enfant lorsque l'homme, c'était une femme qu'on allait, ton enfant, on l'a avorté automatiquement. Pour ne pas qu'on t'avorte, j'ai épousé mon agresseur. C'est la raison pour laquelle, tout mon enfant, j'ai remarqué que mes parents ne dorment pas dans le même lit. Je m'étais toujours posé la question. Donc, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, tout le temps j'ai grandi, tu m'as toujours donné beaucoup, beaucoup d'amour. Tu m'as toujours protégé. J'ai jamais senti que tu me rejetais. Comment une femme qui a été violée peut aimer l'enfant de l'homme qui l'a agressé? J'ai dit, ici au Canada, ça passe pas. Jamais de la vie. Donc, c'est ce qui, moi, qui m'a pesé pendant, depuis 2010, là, j'étais en réflexion, je me disais, comment elle a fait? Parce que, d'autant plus que tu es chrétienne, donc, elle a fait le choix de garder l'enfant, mais l'homme qu'elle a épousé, sachant très bien qu'il est méchant, était un homme violent. C'était un homme qui faisait, il a ses rituels, il fait ses sacrifices, donc c'était séparé. En haut, c'était pour maman et puis les enfants. En bas, c'était pour papa et puis tous les esprits qui veulent bien servir. Là, c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais en fait, nous, ce n'est qu'après son décès qu'on a su la vérité, on a su exactement pourquoi il était comme ça. Même quand c'était la fête des pères, tous les enfants à l'école font des dessins pour papa, maman. La fête des pères, je faisais des dessins pour mon père, je lui apportais. Et toujours, mon père me disait la même phrase. J'avais dit à ta mère de t'apporter, elle n'a pas voulu. C'était la réponse à chaque fête des pères. Jusqu'à ce que mon père accepte Jésus dans sa vie, c'est la phrase qu'il me disait. Mais je n'ai jamais compris. C'est vraiment lorsque ma mère m'a expliqué que j'ai dit, oh, ok. Donc, c'était ça qu'elle voulait m'expliquer. Donc, déjà, en partant, moi, ma mère a porté le poids pendant 33 ans, elle a gardé ce secret. Je lui ai dit, pourquoi tu n'en as pas parlé? Elle a dit, parce que si j'avais fait ça, ça aurait bloqué le plan de Dieu pour la vie de ton père. Parce que mon papa, quand il est décédé, il est mort, il était diacre. Donc, ça veut dire que c'est pour vous montrer que parfois, le Seigneur permet que certaines personnes soient carrément des martyrs, soit carrément des gens qui souffrent pour sauver une âme. Parce que la Bible dit bien que une âme a tellement, mais tellement de prix aux yeux de Dieu. Ma mère avait déjà Dieu, mon père ne l'avait pas. Et le Seigneur voyait qu'en cassant cette lignée-là, au niveau de mon père, c'était vraiment là. Toute la famille était dans la sorcellerie, tout le monde donnait ses enfants-là. Donc, c'était à partir de ma mère, si ma mère tenait son bout, là, elle tenait ça, et puis qu'elle pouvait travailler, amener son mari à la conversion, elle savait que ça casserait le lien familial qu'il a. Donc, moi, ça m'a fait grandir. Moi, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 19 ans. Déjà, j'avais remarqué à la maison que les choses étaient un peu étranges. Quand mon papa épousait ma mère, mon papa avait 14 femmes à côté. Mais ma mère ne savait pas. Mais de toute façon, je pense qu'elles s'en fichaient parce que pour une femme qui porte l'enfant d'un agresseur, non, elles ne savaient pas. Mais les femmes étaient là le jour où ils se mariaient, là, ils se sont mariés, les femmes étaient dans la salle. Puis, par la suite, moi, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient au niveau de la maison. Il y avait beaucoup de violence dans la maison. Quand mon père était fâché, il met le couteau sous la gorge, il prend son revolver. Et puis, ici à Montréal, on parle ici, souvent on parle de la DPJ. La DPJ, il y a des cas où la DPJ n'a jamais mis le nez. La DPJ pense qu'ils sauvent tous les enfants. Mais il y a des enfants qui vivent des choses que vraiment, ils n'ont aucune idée de ce qui peut se passer dans un foyer. Et quand l'enfant est pris dedans, l'enfant aime tellement ses parents qu'à l'école, il ne parlera pas. Il ne dira rien. Donc nous, on allait à l'école, on ne racontait rien de ce qui se passait à la maison. Donc on avait l'air d'une famille 100% normale. Ma mère, quand je suis arrivée au Canada, maintenant ma mère, elle a eu deux autres enfants. Mon frère, mon frère est né, puis après, il y a eu ma soeur. Mon frère, quand lui, il a attrapé ce qu'on appelle la poliomyélite, qui est une maladie. En tout cas, ici au Québec, ça n'existe même plus, hein, parce que les enfants sont vaccinés, mais ça cause une paralysie. Donc, ça fait que mon frère était paralysé. Et mon père, lui, il avait honte de son fils, parce que c'est son seul garçon. Il a deux filles, un garçon, et le seul garçon qu'il a est handicapé. Donc, mon père maltraitait énormément mon frère. C'est souvent moi qui me mettais entre... Quand mon père le frappait, là, c'est moi qui me mettais entre là pour prendre les coups parce que je me disais, mon frère ne marche pas, il rampe. Donc, c'est inimaginable. Je me disais, ça, c'est pas possible dans la tête d'un parent. Mais ce n'est que plus tard que le Seigneur va vraiment me montrer les vraies choses. Parce que vous savez, je disais comme ça, c'est facile de garder de la colère, c'est facile... de garder, je pourrais être là et puis avoir encore de l'amertume, de la colère face à mon père, mais je n'en ai pas. Mon papa, je l'aime. Il est mort, mais il est avec Jésus. Et parce qu'il est avec Jésus, il s'est repenti, je l'aime. Vous voyez?
Merci Seigneur.
Oui, Dieu est bon. C'est pourquoi ce soir, je suis venue et j'ai dit non, je dis, il faut que je partage mon témoignage. Parce que les gens vivent des souffrances et pendant que tu souffres, vient un moment où tu te demandes si le Dieu que tu sers, si la Bible que tu lis, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça a vraiment un sens? Il y a des moments où les obstacles viennent dans ta vie tellement intensément, tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? D'après moi, tu m'as oublié. Et moi, avant d'accepter Jésus à 19 ans, entre 16 et 19 ans, oui, 16 et 19 ans, j'ai fait 19 tentatives de suicide. 19 fois, j'ai essayé de m'enlever la vie, mais à chaque fois, et la dernière fois, je m'en souviens très bien, parce que la dernière fois, tout ce que j'avais avalé comme pilule, avant même d'arriver à l'hôpital, mon corps avait tout expulsé. Et même le médecin a dit non. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne veut pas que tu meurs. Et moi, je n'avais pas réalisé en fait que c'était le plan de Dieu qui était en train de s'accomplir. Dieu avait un plan. Tout ça ici. Moi, j'ai grandi ici. Je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans. Ouais, je suis arrivée tôt. À l'âge de 2 ans, je suis arrivée ici. Donc, à l'âge de 19 ans, ben, en fait, à l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à avoir de la difficulté à dormir. Quand je dors la nuit, je fais des cauchemars, tout ça. Donc, j'ai dit à ma mère, oh, maman, je fais des cauchemars quand je dors là. C'est vraiment difficile. Mais je pensais vraiment que c'était uniquement des rêves, quoi. Donc, je dis, je fais des mauvais rêves. Ma mère, elle dit, mais tu n'écoutes pas de films d'horreur. Ça, je dis, je sais. Mais je dis, maman, j'ai vraiment l'impression, quand je ferme les yeux, à peine je ferme les yeux, je me réveille, j'ai dit, je me vois. Donc, j'ai l'impression que je ne dors pas, en fait. J'ai l'impression que c'est comme si mon esprit quittait mon corps. Donc, ma mère a commencé à se poser des questions parce qu'elle savait qu'est-ce que son mari faisait. Donc, elle a dit, elle a dit, tu sais, tu devrais peut-être penser à commencer à lire la Bible. Je dis, ah, mais maman, je ne crois pas à ces trucs-là. Non, j'ai dit, toi, je sais que, bon, toi, c'est Jésus, là, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, à ce moment-là, moi, j'allais au cégep Bois-de-Boulogne, j'étudiais là-bas. Et c'est pendant que j'étais au cégep Bois-de-Boulogne, les problèmes comme ça ont continué à s'intensifier, au point que, là, non seulement je n'arrivais pas à dormir, mais le peu de temps où je fermais les yeux, je dormais. Et ce que je dis, j'avais dit à Annie, j'ai dit, les oreilles sensibles ne peuvent pas entendre. Parce que ce sont des choses que je peux emmener, ma vieille mère va vous confirmer. Je dors mon lit à gauche, je me réveille mon lit à droite. Et ça là, pendant longtemps, j'ai même pensé que c'était moi qui étais folle. J'ai dit, ok, quelque chose ne fonctionne pas. Donc, je me couche encore dans la nuit, je me lève le lendemain matin, mon lit n'est pas dans la même position. Maintenant, je vais voir ma mère, je dis, maman, la nuit, mon lit change de place. J'ai dit, ça c'est le film de Steven Spielberg, je ne sais pas. Ma mère, elle a dit, ok, dors en paix. Elle dit, je vais voir ça. Et effectivement, je suis allée me coucher, ma mère n'a pas dormi. Elle a décidé de prendre une soirée, une nuit de, comment on dit ça, une nuit à prier. Donc, elle avait sa Bible et puis elle marchait devant ma chambre. Et effectivement, aux alentours de minuit pile, elle a remarqué qu'elle entendait du bruit. Mon lit se déplaçait et elle-même, elle a vu. Moi, je dormais. Et c'est là que j'ai dit à ma quand je me suis levée, ma mère m'a dit, j'ai vu ce qui se passe. Et elle m'a dit, je ne peux pas t'emmener au salut. Je ne peux pas faire ça. Parce que le salut, en fait, le salut personnel, c'est toi qui dois prendre la décision. Est-ce que je suis Jésus? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est faux? Parce que je fais des études en santé mentale. Actuellement, je fais une maîtrise en santé mentale. Donc, comprenez bien que si je me tiens à l'université de vous et que je raconte ça, c'est que je suis automatiquement schizophrène. En ce temps, ok. Donc, c'est pour vous dire que je sais exactement de quoi je parle. Et un jeune homme au sujet de ma douleur, il y avait ce qu'ils appellent, à l'époque, ils appelaient ça les cellules bibliques, IBQ, je crois qu'ils appellent ça. Je ne sais pas si ça existe encore. Donc, il y avait des cellules bibliques dans toutes les cégeps à l'époque. Et un jeune homme s'est approché de moi et m'a dit, je ne te connais pas, mais j'ai l'impression que tu vis des choses difficiles. Est-ce que tu aimerais accepter Jésus? Là, j'ai dit, je ne crois pas que ton Jésus peut faire quelque chose pour moi. Il a dit, ok. Donc, là, maintenant, je change de pavillon. Ceux qui ont déjà été à Bois-de-Boulogne, vous avez les pavillons, là. Donc, je m'en vais dans le pavillon où il y a la bibliothèque. Le jeune homme me retrouve quand même. Tous les jours, il me retrouve. Il se penche, il me dit, bonjour Marie, est-ce que tu as accepté Jésus? Je lui dis, tu n'as la tête. Tu n'as pas compris. Il s'en va. Le lendemain, il revient. Marie, tu as bien dormi? Donc, là, j'ai commencé à dire, mais comment ça se fait que... Pourquoi il demande si j'ai bien dormi? C'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, que quelqu'un lui raconte ma vie, en fait. J'ai dit, j'ai pas bien dormi, mais je t'ai dit que ton Jésus, j'en veux pas. Il a dit, ok. Le jeune homme a tenu le coup, là, pendant plusieurs semaines. Et Dieu sait que j'étais pas une femme tendre à l'époque. Donc, je l'ai pas raté. Mais un jour, j'en avais vraiment marre. Un jour, là, j'ai senti que là, j'ai dit, ok, c'est trop, je peux plus, je ne supporte plus l'ambiance à la maison, tout ça. Et le jeune homme est venu cette fois-ci, il m'a dit, veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur personnel? Et je lui ai dit, j'aimerais bien. Sans vraiment savoir ce que ça implique. C'est ça aussi l'histoire. Parce que dans ta tête, tu dis, tu sais pas. J'ai dit, j'aimerais bien. J'ai dit, à condition qu'il me délivre de ces trucs-là qui se passent à la maison. Puis j'ai dit, je sais pas ce qui se passe, mais s'il peut me délivrer de ça, je vais accepter ton Dieu. Il a dit, ok. Bon, il m'a pris par la main, il y avait, c'était pendant le dîner, il y avait des salles de classe qui étaient libres. On est rentré dans la première salle de classe, puis il m'a simplement dit, tu vas répéter après moi. Donc, j'ai fait comme, ok, mon Dieu, c'est simple. Par rapport à ce que j'ai à la maison, répéter, il n'y a rien là. Donc, j'accepte Jésus, oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Donc, je répète après lui, et quand il dit Amen directement, j'ai senti un poids, je ne sais pas, encore aujourd'hui, 20 ans après, je ne peux même pas expliquer. C'est comme si un éléphant était assis sur ma poitrine et puis il s'est levé. Je peux pas dire. J'ai pris une bouffée d'air, j'ai dit, oh, je respire, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me suis retournée, j'ai dit, il y avait quelque chose, il y avait donc une force sur moi. Il dit, oui. Il dit, c'est pourquoi j'insistais, parce qu'il dit, tu es une femme, quand on passait à côté de toi, on sentait que tu dégageais quelque chose de très fort. Mais il ne savait pas ce que c'était, j'ai dit, mais c'est parti, parce que je me sens bien. Et là, j'ouvre la porte, et pour, vous savez, on devient un peu fou pour Maxime, j'y suis. Donc, j'ouvre la porte, les élèves te regardent, et puis j'écris, qui a une Bible ici? Donnez-moi une Bible. On a votre boulot, tout le monde me regarde. Là, je dis, je veux une Bible, et quelqu'un veut une Bible. Et puis, il est venu, il m'a tendu la Bible, et j'ai commencé directement comme Ésaïe. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Ésaïe a été le premier livre que j'ai lu, c'est celui qui juste à aujourd'hui, c'est celui qui m'atteint le plus parce que le Seigneur, Ésaïe s'est senti petit, Et le Seigneur a envoyé un ange toucher ses lèvres, le Spirit crie. C'est là que je pense que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé là, pour me montrer que malgré tout ce qui était les liens de génération, là, tout ce qui était dans mon sang, tout ce qui était spirituel, que Dieu avait ce pouvoir de me laver, de me purifier, de me sanctifier. Et là, c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur. Et quand je suis rentrée à la maison, étrangement, mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas étrange, mais dès que j'ai mis les pieds dans la maison, « Bonjour, papa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi, papa? » J'étais au cégep, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu as fait? » Là, c'était un peu problématique parce que j'avais la Bible dans mon sac. J'ai dit, « OK. » Là, ma mère est dans la cuisine, ma mère, elle me regarde. Et puis, je me retourne et puis je dis, « J'ai accepté Jésus aujourd'hui. » Mon père a dit, « Putain, tu prends tes affaires, tu sors. » Parce que le Dieu que tu as choisi de servir ne peut pas vivre avec celui que moi, je sais. Non, j'ai dit, je pensais que c'est une blague. Après qu'il a dit ça, il est parti. Il est parti fâché, il est dans sa voiture ou pas. Puis je disais à ma mère, je dis, est-ce qu'il est sérieux? Parce que là, moi, je faisais mes études, je vais aller en médecine. Là, lui, il est en train de gâcher ma vie parce que mon père payait tout pour moi. Il payait mes études, mes vêtements. C'est un monsieur qui avait de l'argent. Donc, là, lui, il me demande de quitter parce que j'ai accepté un Dieu. Et je dis, comment il a su? Il n'était pas là ce jour-là. Donc, je ne suis pas partie tout de suite. Il est parti, il est revenu. Maintenant, quand il est rentré, il a vu que j'étais là. Là, il m'a dit, je t'ai dit de quitter la maison. Et c'est là que ma mère s'est mise à pleurer parce que ma mère a réalisé que c'était vraiment, il était sérieux. C'était sérieux. Je fais, OK. Donc, moi, je n'ai jamais carte de banque de ma vie. Je ne sais même pas comment payer une facture. Je n'ai que 19 ans. Toute ma vie, j'étais à l'école, mes parents ont toujours tout acheté pour moi. J'ai dit, OK. Je regarde dans le garde-robe, je prends, il y a un chandail de laine. Je prends le chandail, je me rappelle encore, c'était le 5 août. Donc, c'était en plein été. Mais quelque chose m'a dit, prends le chandail, j'ai pris le chandail de laine. J'ai rempli un petit sac, puis ma mère a dit, tu vas où? J'ai dit, ben, là où je vais trouver, je vais aller. Donc, j'ai pris le bus, j'habitais Auteuil. J'ai pris la 31, j'ai descendu au terminus Henri Bourassa. Et le terminus Henri Bourassa est devenu ma maison. Donc là, maintenant, les élèves qui étudiaient avec moi à Bois-de-Boulogne passent le matin et Marie dort sur un banc. Donc vous pouvez imaginer l'humiliation. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu dors là? Je dis, ma femme, elle dort. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché avec un garçon? Tu es enceinte? C'est la première question que tout le monde pose. Mais personne ne va te demander si tu as accepté ces gars parce que ça ne signifie rien pour eux. Donc, tout le mois de août passe. Je dors sous l'arbre. Il y a un parc qui est juste derrière le métro en bas. Ça, je dormais dans le parc là. Mais là, quand il a commencé à faire froid vers septembre, j'ai commencé à chercher un coin où c'était plus chaud parce que j'avais pas de place pour me réchauffer. Donc, un itinérant m'a dit, tu sais, au métro à Poitiers, ils ferment jamais vraiment les portes. Et ils mettent en haut des... je sais pas comment on appelle ça. Ça me semble comme des grosses lampes là qui envoient de la chaleur. C'est le seul métro que je connaissais. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais ils le faisaient parce qu'il y a beaucoup d'itinérants au centre-ville. Donc, j'ai commencé à aller dormir là. Donc, le gardien de sécurité, quand c'est fini, lui, il ferme la grille qui mène à l'escalier qui te permet de rentrer dans le métro. Mais il laisse les portes battantes ouvertes. Donc, c'est là que j'ai commencé à aller me réfugier pour dormir là. Tout le temps que je suis restée dans la rue, j'ai toujours continué à lire Ésaïe. Je n'ai pas lâché. J'ai continué à lire ma Bible. Ma mère, elle est venue m'attendre au métro. Elle m'a porté à manger. Elle dit, tu vis où? J'ai dit, je vis dans la rue. J'ai dit, je m'assois parmi les gens qui s'injectent de la drogue. Je lui ai dit, maman, j'ai dit, je ne me suis pas lavée depuis 30 jours. J'étais une femme. Ça fait 30 jours que je ne suis pas lavée. Ma mère pleurait comme ça. J'ai dit, non, il doit avoir une raison. Alors, j'ai dit, j'ai une assurance. Il est impossible que ce que j'ai ressenti ce jour-là, quand j'ai dit oui à Jésus, sort de ma tête. J'ai vraiment senti quelque chose. J'ai dit, Dieu existe, je le crois fermement maintenant. Donc, je vais continuer. Donc, j'ai continué comme ça jusqu'au début novembre. Donc, ça veut dire que j'ai fait 5 août, j'ai fait octobre, août, septembre, octobre. Début novembre, je me suis levée. Là, il faisait froid. Là, on était dans les moins 2, moins 3, comme ça. Et donc, mon chandail ne suffit plus. Donc, j'ai commencé à faire de l'hypothermie. Ma température chutait beaucoup trop bas. Puis, le matin que je me suis levée, j'avais mal à l'estin. Puis là, j'ai dit, oh, J'ai mal à l'instinct, c'est bizarre. Mais au moins, j'ai toujours ma carte d'assurance maladie parce que c'est la première chose que tu prends quand tu vas te mettre dehors. Là. On est au Québec, tu penses au moins à une pièce d'identité. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller à l'hôpital Sacré-Cœur. Je n'ai pas d'argent pour prendre le bus. Et c'est loin à pied. Là. Donc, je me rends à l'urgence, je m'installe, je prends le numéro comme tout le monde. On m'appelle, tout ça, on fait des examens. La première chose, le monsieur m'a regardé, il a dit, vous êtes bien jeune près dans la rue. Puis j'ai dit, oui, je sais. J'ai dit, mon père m'a mis dehors. Puis il dit, vous dormez où? J'ai dit, je dors au métro à Trois-Teux. Puis le jour, comme je suis au métro Henri Bourassa. Il dit, OK, donc on fait des examens, tout ça. Il revient, et puis il me dit, mademoiselle, vous avez une tumeur. Maintenant, je dis, ah, attends. J'étais en santé jusqu'à Jésus. Après Jésus, je commence par un cancer. Je ne comprends pas. Donc là, le médecin avait un problème éthique. Parce que lui, il se disait, j'ai devant moi une jeune fille de 19 ans. Elle a une tumeur. Mais je peux l'opérer. Mais est-ce que comment je vais pas la renvoyer après chez elle? Elle a pas de maison. Donc moi, j'ai dit au médecin, ben, j'ai dit, est-ce que ça s'est répandu? Il dit non, pas de métastase. J'ai dit, aucun moi. Je vais dormir dans la rue. Puis je reviendrai pour mes traitements. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ils m'ont opéré, ils ont enlevé la tumeur, tout ça. Puis j'allais à l'hôpital pour les traitements. Souvent, je devais même marcher parce que je n'avais pas l'argent pour prendre le bus. Donc, j'arrivais fatiguée. Mais l'équipe qui était là, ils me connaissaient. Donc, c'est ça, c'est un Dieu bon quand même, hein, parce que le Seigneur choisit des gens pour toi. Donc, quand j'arrivais, ça avait, oh, c'est la jeune fille là-bas. Donc, quand j'arrivais, ils avaient les plateaux de nourriture là, de la journée. Ils m'avaient gardé ça. Donc, alors qu'ils ne sont pas obligés. Je venais pour les traitements. Donc, j'ai fait ça comme ça jusqu'à ce que je sorte de la rue. En fait, je ne suis même pas retournée pour savoir si j'étais en rémission. Parce que j'étais convaincue que j'étais de toute manière en rémission. Je ne me suis pas posé plus la question, en fait. Je suis rentrée en appartement le 15 novembre. Mais la veille que je rentre en appartement, donc le 14, à Montréal, il a fait extrêmement froid. Là, on était le 14 novembre, je vous dirais qu'il faisait dans les moins 20, calculer le facteur vent. Mon chandail était exactement comme le chandail que vous portez, un chandail bleu, comme ça, mince comme ça. Ça, c'était mon vêtement. Tout le monde est en tuque, avec des mitaines, et puis c'est comme ça. Puis moi, je suis en chandail, je suis assise dans le métro à tenter les bras croisés. Puis là, je dis au Seigneur dans mon cœur, tu sais quoi, Seigneur, je suis fatiguée. C'est la phrase que je lui ai dit, je suis fatiguée. J'ai dit, aujourd'hui, là, cette fois-ci, je ne vais pas rater mon coup. Puis, vraiment, j'avais de la tristesse, puis je disais, vraiment, je te demande pardon parce que je t'ai accepté, je suis consciente maintenant que tu existes, mais mon corps ne peut plus suivre, mon esprit est fatigué. Donc, je suis sortie du métro, j'ai trouvé les vieilles bouteilles vides des alcooliques, là, ils avaient cassé ça. Donc, j'avais ramassé un des morceaux qui traînait par terre et j'ai mis dans ma poche, dans la poche de mon chandail. Puis je suis retournée, je me suis assise, et puis je regarde les gens qui sont en train de se droguer, tout ça, je regarde ma Bible dans mon sac. Vraiment, là, je suis contrariée parce que, en fait, comme j'ai lu Isaïe, je ne sais pas ce qui arrive aux gens qui se suicident. Quand moi, j'ai lu que Isaïe. Donc, je ne sais pas ce que Dieu pense, en fait, de ça. Donc, j'ai dit, OK. Mais je me suis dit, bah, Dieu, il voit, puis arrivera ce qui arrivera. Ça ne peut pas être pire que ce que je suis en train de vivre, de toute manière. C'est ce que je me suis dit. Donc, là, j'ai dit, OK, j'attends que ce soit plus calme. Puis quand ce sera plus calme, là, j'avais pris la décision, j'ai dit, moi, je dois m'ouvrir les veines, puis c'est fini, puis j'aurai la paix, mon père va être content, il va être débarrassé d'un enfant, puis ça va être réglé. Maintenant, aux alentours de minuit, en fait, je suis sûre même, il était minuit quand j'ai regardé là, quelqu'un pousse la porte, un homme, pousse la porte, il avait un sac à dos en tissu. Et puis quand il rentre, il se tourne, puis il me regarde, puis moi, la première chose que j'ai dit dans ma tête, j'ai dit, ah ben non. Non, non, non. Déjà, là, je viens de taper une chirurgie, je viens de taper des traitements. Là, là, la dernière chose dont j'ai besoin, là, c'est vraiment que monsieur vienne m'approcher. En plus, là, j'ai pas besoin de ça. Donc, lui, il est venu, il a retiré son sac à dos, il a ouvert et il a sorti trois choses. Il a sorti un shampoing, un revitalisant et une crème à raser. J'ai les images dans ma tête comme si c'était hier. Et il a déposé le sac par terre. Donc, moi, je me suis dit, il est fou. Parce que de toute manière, tous les gens se droguent là, à gauche, là. Non, probablement qu'il fait partie des gens de gauche, là, puis il est allé vider son sac quelque part à droite. Moi, c'est juste ça que je me suis dit. Puis, le monsieur s'est approché de moi, puis il m'a dit, bonsoir. Puis là, j'ai dit, bonsoir. Mais là, c'est vraiment méfiante. Tu lui as dit, tu es triste, hein? J'ai dit, ouais. Pourquoi? Puis là, il me dit, c'est triste parce que les gens t'ont rejeté. Ta famille t'a rejeté. Donc là, là, ça devient troublant. J'ai dit, oui, c'est ça. Puis le monsieur se met à pleurer. Ses yeux sont d'un bleu, je ne peux pas vous expliquer. En tout cas, c'est un bleu qui, il n'y a pas, je n'ai pas vu quelqu'un encore après avec des yeux comme ça. Et quand il pleure, ses larmes sont comme du cristal. Là, je me suis dit, ok, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je suis fatiguée, je n'ai pas bien dormi. Mais je regarde le monsieur et je vois que ses larmes sont vraiment comme du cristal. Puis, je me suis souvenu d'un passage qui disait, seul Dieu peut lire dans le cœur de l'homme. L'Esprit Saint peut voir, mais le diable ne peut pas regarder. Donc, moi, c'est sur ça que je me suis basée. Je ne connaissais pas bien la Bible, mais j'ai dit dans mon cœur, je dis, Seigneur, si l'homme qui est devant moi, c'est toi, parce que c'est ce que je ressens, je veux que tu me parles à la première personne du singulier. C'est vraiment comme ça que j'ai formulé ma phrase. À la première personne du singulier. Et à ce moment-là, il m'a regardé, il m'a dit, Marie, et je ne lui ai pas dit mon nom. Il m'a dit, Marie, si tu fais tout ce que je te demande, je te promets le meilleur. Quand il a dit ça net, je me suis levée d'un bond, puis j'ai dit, Jésus, j'ai crié ça comme ça. Le plancher a disparu, le plafond a disparu, il n'y avait plus de mur, plus rien. Je me suis retrouvée seulement, moi, face à... Je ne pouvais pas dire est-ce que c'est un homme, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est quelque chose qui se passe. Puis, on se regarde. Et puis, il me pointe le ciel. Maintenant, je regarde le ciel, je vois plein d'étoiles. Puis, il m'a dit, quand tu pleurais, j'entendais. Il dit, je sais, quand tu me dis, viens, Seigneur, je suis fatiguée, viens. Que ton règne vienne, je suis tellement fatiguée. Il dit, j'entendais. Mais il a dit, si je réponds à ta prière, regarde, ils seront nombreux comme les étoiles du ciel, ceux qui mourront. Et quand il a dit ça, j'ai pensé à mon frère. J'ai encore des frissons. J'ai pensé à ma soeur. Tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, c'était égoïste. Vous comprenez? Parce que le corps souffre. Mais mon esprit, mon âme était sauvée. Mais c'est pas comme ça que je voyais. Moi, je me disais, mais il faut que je souffre. Pourquoi il ne vient pas? Quand il m'a montré les étoiles, je sais, j'ai vu combien c'était nombreux. J'ai compris pourquoi maintenant, lorsque je souffre, Dieu ne vient pas ou n'intervient pas forcément. Donc, ce n'est pas parce qu'il est sourd, mais c'est parce qu'il t'a déjà sauvé toi et les autres. Pourquoi il sauverait toi et pas les autres? Tu as fait quoi de plus? Donc, c'est là que j'ai compris, j'ai dit ok. Puis quand il a fini de me montrer ça, j'ai recommencé à entendre du bruit, les sons environnants. Là, je vois les murs qui réapparaissent, puis tout ça. Puis là, il me regarde, il ne dit plus un mot maintenant. Il avait terminé et je sais que, en tout cas, mon esprit savait que ce qu'il était venu me dire, il a dit. Donc, j'ai fait ok, je me suis assise. Je me suis pas posée. La bouteille, là, le morceau de bouteille, j'ai dans mes mains. Devant lui, je l'ai jeté. Je me suis assise dans le froid. Et là, j'ai regardé là où les personnes se droguaient. Là. Ils étaient en train de se droguer. Et puis, deux drogués se disputent. Je suis cassé par moi, donne-moi la seringue, etc. Puis, soudainement, lui, il passe comme son milieu. Puis là, les deux crient, puis ils s'arrêtent comme ça, puis ils tournent la tête, puis ils regardent. Il les a seulement regardés. Ils se sont séparés. Directement, un est parti à gauche, l'autre est parti à droite. Et j'ai dit, ouais, l'esprit qui est en train de marcher dans cet homme-là, ça là, c'est lui que j'ai choisi de servir. Lui, c'est l'esprit de Dieu. Il est parti, il s'est laissé franchir la porte. Puis c'est là, j'ai dit, tu reprends tes esprits, hein. Tu dis, comme, hey, il est devant toi, cours devant lui de l'argent, une voiture, non, mais je cours. Et puis quand il n'aurait pas pu avoir, il y avait un peu la distance entre. La porte, et puis il sort comme ça. Moi je sors, il n'y a personne. Le parc est vide, complètement vide. Et c'est là que j'ai dit ok. J'ai dit donc, le Seigneur est venu me rendre visible. Quand je suis découragée, je me rappelle de cette première rencontre. J'ai dit première rencontre parce qu'il y en a eu d'autres. Et je fais partie de ces gens, je bénis toujours le nom du Seigneur. Je fais partie de ces gens qui ont eu la grâce de lui parler plus d'une fois. Mais ça, c'était la première rencontre où je peux dire que c'était du face à face. Donc, là, j'ai dit, OK, le Seigneur a permis, Dieu a restauré ma vie. Hein. Je me suis mariée. Dieu m'a montré que j'allais épouser un pasteur. Ce qu'il me montrait, il me parlait beaucoup au travers des rêves. Et moi, je ne croyais pas aux rêves. Donc, moi, les affaires de, vous savez, les cartes mensuelles, moi, je ne disais pas ces trucs-là. Donc, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je priais, que je dormais, ce que je voyais était exact. Donc, j'étais OK. J'ai commencé à marcher dans une église, aller à l'église, tout ça. Et pour faire une histoire courte, juste pour vous dire, je suis mariée avec mon mari, je suis avec mon mari. On a 6 enfants, mon mari est pasteur. Si je vous dis que j'ai pris l'avion, je suis allée épouser mon mari sans l'avoir jamais vu physiquement. Je suis partie sous la base de rêve. J'ai dormi et j'ai vu cet homme dans mon rêve et Dieu m'a dit c'est lui. J'ai juste entendu la voix dire c'est lui. Et quand j'ai fait connaître une fois, j'étais dans une période de jeûne. Quand je jeûne, c'est que là vraiment là, je ne prends rien. Donc j'étais dans une période de jeûne. Je sortais d'un jeûne de 40 jours. Donc là, la deuxième nuit encore, je dors, je vois le même homme, il tient une Bible. Et je vois que cet homme-là, quand il prie pour moi, tous les esprits autour de moi fuient. Donc j'ai compris que c'était un serviteur de Dieu. J'ai dit, OK. J'ai dit, donc, l'homme que Dieu a choisi pour moi, c'est un pasteur. Donc là, je commence à prier, je dis, ah! J'ai dit, Seigneur, je suis une femme, on considère une femme de caractère. Je vous dirais que même à l'église, toutes les églises où j'ai fait, les gens disent toujours, oh, la dame aux cheveux rouges, là, ou la dame aux cheveux mauves, la dame aux cheveux blancs. Parce que, en fait, je suis une personne, je suis très artistique, je suis très expressive, mais mon cœur est très grand. Puis j'ai dit au Seigneur, pour avoir parlé au Seigneur, je sais que ce n'est pas ça qu'il regarde. Mon bracelet ne m'empêchera pas de rentrer au ciel. Ce qui va m'empêcher de rentrer, c'est ce qu'il y a ici. Le Seigneur dit, le vase peut être très beau à l'extérieur, mais si à l'intérieur c'est sale, ça ne vaut pas la peine. Et quand j'ai vu le rêve, j'ai fait le rêve 2 fois, la secrétaire du pasteur m'appelle, une Québécoise. Elle m'appelle, elle me dit, Marie, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai dit, je vais te sortir dans le temps de jeûne et prière. Elle dit, viens à la maison, viens manger. J'ai dit, OK. Donc maintenant, j'arrive chez elle. C'est la première fois qu'elle habite Rosemont. Je rentre dans son appartement. J'ai dit, c'est beau, c'est toi, Sylvie. Mais j'ai dit, c'est petit. Tu vis seule? Elle dit, oui, je vis seule. Mais elle dit, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et là, je vois comme, à peu près cette taille-là, justement, ils appellent ça un babillard de prière. Oui, tu colles les photos des gens pour qui tu veux prier avec les requêtes. Donc maintenant, moi, je suis curieuse. Pendant qu'elle prépare la cuisine, je regarde. Et je tombe face à face avec le jeune homme que j'ai vu dans mon rêve. Là, maintenant, je suis troublée, puis là, je regarde Sylvie, puis là, je regarde le jeune homme, puis là, je dis, excuse-moi, oui, Marie, le jeune homme qui est assis au bureau, là, tu sais, le genre de pupitre, oui, c'est qui? Elle dit, il s'appelle Sylvain, c'est un pasteur, il vient en Côte d'Ivoire. Donc, là, la première chose que j'ai dit dans ma tête, j'ai dit, Dieu, je veux juste te rappeler qu'on est 7 millions à Québec, puis des hommes, il y en a. Donc, à Côte d'Ivoire, comment? Après tout ce que j'ai passé là, c'est à Côte d'Ivoire, tu m'as envoyé chercher. Ça, c'est ma chère qui a répondu, en fait. J'ai dit, OK. Maintenant, je rentre à la maison, j'appelle ma mère. J'ai dit, maman, voici, je raconte. Et là, ma mère, elle dit, si ça vient de Dieu, ça va se concrétiser. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va se défaire. J'ai dit, OK. J'ai dit, comme... Je respecte beaucoup ma mère, elle est âgée. Je sais que pour tout ce qu'elle a traversé, c'est une femme à qui je dois vraiment le respect. Donc, je dis, OK, maman, d'accord. Donc, je ne travaille pas. J'étais infirmière, je me suis blessée, donc je ne travaillais pas. Je dis, comment je vais faire pour me rendre en Afrique sans argent? Je n'ai pas d'argent. Maintenant, Sylvie, elle me dit, Marie, je cherche une coloc. Si tu veux, tu peux venir habiter avec moi. Je dis, tu sais, je n'ai pas un sou. Elle dit, c'est pas grave, elle me dit, j'ai juste un lit. Puis elle, elle est forte de taille aussi. Donc, c'est un petit lit, elle a. Je dis, OK. Non, elle dort sur le lit, puis moi je dormais par terre. Ouais, comme un chien là, j'ouvre mon bras, je dors au pied de son lit. Puis là, je dors là, puis je dis au Seigneur, chaque nuit, je me dis, franchement, hein, je me suis tapé le métro Henri Bourassa, assois-toi. Puis là, maintenant, il faut que je me tape le sol en plus. Là, je dis, là, Seigneur, je sais que des gens doivent souffrir, mais est-ce que c'est tout le temps la souffrance? Donc, je dis, OK. On déménage ensemble, tout ça. J'avais envoyé des CV, mais ça faisait longtemps. Les CV, là, au-dessus d'un an. Le téléphone sonne. Puis elle dit, Marie, c'est pour toi. Je dis, oui, bonjour. Puis il dit, oui, bonjour, Madame Pierre. Je dis, oui. Il dit, je m'appelle telle personne de l'agence Alter Ego. J'ai dit, oh, je dis, mais je vous envoie mon CV, ça fait plus d'un an, ça fait longtemps là. Elle dit, oui, je sais. Elle dit, je suis en train de faire le ménage. Elle dit, je suis tombée sur votre CV. Elle dit, je pense que j'aurai un poste pour vous. J'ai dit, ok, j'ai dit, un poste en quoi? Elle dit, c'est un poste de 9 mois, c'est un contrat de 9 mois pour 50 000. Mais là, tu commences à réfléchir, tu te dis, ok, c'est pas la prostitution, mais là, j'ai dit, non, parce que c'est une agence qui est connue à Montréal, à Terrebo. Et puis, je dis, mais c'est quoi? Elle dit, c'est pour travailler pour les anciens combattants, les anciens militaires. Donc, traiter leur dossier médical, étant donné que j'ai une formation médicale. J'ai dit, ok. Elle dit, c'est au fédéral. Elle dit, il faut être bilingue. J'ai dit, ah ben là, moi, je parle français. J'ai dit, je suis désolée. Et la dame, leur maman, ils disent, ok, bon, je comprends. La maman, ils raccrochent, hein, ils appellent la prochaine. Elle m'a dit, ne refusez pas. Elle a dit, présentez-vous seulement. Et c'est ça, moi, qui j'ai trouvé bizarre. J'ai dit, la dame ne connaît pas. Quel intérêt elle a de prendre une fille? Oui. Parce que son boss lui dit, pourquoi tu vas envoyer elle? On a un contrat avec le fédéral, tu envoies une fille qui ne parle même pas anglais. Donc elle, c'est un risque qu'elle prend, mais elle m'a dit, ne refusez pas. Elle a dit, présentez-vous seulement.
Elle dit ça.
Oui, c'est elle qui me dit ça. Donc je prends ta fille, je note, tout ça. Mais non, dans mon cœur, là, sincèrement, j'ai dit, quand ils vont entendre mon anglais, ben, ils vont fuir. C'est sûr. Donc on arrive là-bas, on fait la formation, tout ça. Et la dame, elle m'approche, la formatrice, elle me dit, ben, tu dis que tu parles pas anglais, elle dit, tu parles très bien anglais. J'ai dit, ah bon? Elle dit, j'ai l'impression que tu as appris l'anglais, mais que tu ne l'as jamais mis en pratique. J'ai dit, oui, c'est ça, parce que moi, mes parents ne parlent pas anglais. Elle dit, ok, mais elle dit, mais tout ce que tu as appris là, en fait, je parlais très très bien anglais. C'est simplement que, comme je n'ai pas d'amis anglophones, je n'ai jamais pratiqué, simplement. Donc, j'ai commencé, ils m'ont embauché, hein. J'ai commencé à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler, les payes sont élevées. Donc, je suis OK. Donc, un, ça me donne la possibilité de jaser avec l'autre qui est en Afrique. Parce que mon mari, lui, c'est toujours pas que moi, je sais qu'il est mon mari. Lui, il m'appelle pour prier pour la pauvre dame qui est au Canada. Moi, j'appelle pour parler à celui qui doit être mon mari. Parce que tu vas dire, c'est mon mari. C'est comme ça marche. Et mon mari, lui, c'est un homme qui aime les femmes très, très minces. Chacun a ses goûts, hein. Donc, lui, là, c'est les formes bouteilles de Coca-Cola. C'est comme ça, il y a... Alors que moi, à l'époque, là, j'ai perdu du poids, sincèrement. Mais là, parce que j'ai fait la chirurgie bariatrique. Mais à l'époque, je faisais dans les 170 kilos. Essayez d'imaginer seulement. Donc, ça veut dire que moi, quand je suis enceinte au début, là, je prends deux bancs.
C'est un coq de lait.
Hein?
Non,
c'est juste. C'est ça. C'est carrément... Vraiment, on était... complètement, mais totalement incompatible. Mon mari, de son côté, lui, il veut se marier. Et puis, chaque fois qu'il approche une femme, la femme le repousse. Moi, je suis au Canada. Quand je prie le soir, je dis, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es grand, tu es merveilleux. Seigneur, tu m'as montré qui est mon mari. Dans le nom de Jésus, que toutes les femmes qui s'approchent de lui, tu les chasses. Parce que je rappelle à mon spirituel que sa femme, c'est moi. Tous les soirs, je fais ça. Et c'est drôle parce que quand mon mari, quand il est avec moi, il témoigne, il dit, bon, pendant que ma femme faisait ça au Canada, moi, les femmes en Côte d'Ivoire m'insultaient. Chaque fois que j'allais rencontrer une femme, elle disait, mais tu veux que je fasse quoi avec toi? Je veux pas de toi. C'est là où ma mère dit, ok, c'est de toi que ça venait alors. Je dis, mais oui. Elle dit, le Seigneur dit que tout lieu que je vais là, que je pose mon pied là, il me donne en fait. Donc moi, j'ai jamais pris ça seulement sur le plan physique. Moi, j'ai toujours pris ça, même sur le plan spirituel. Moi, je me dis, spirituellement, Dieu m'a fait une promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et moi, je dis toujours ça. C'est le verset que je lui dis toujours. Donc, c'est comme ça que j'ai pris en ce sens-là. Et c'est comme ça que j'ai payé mon billet d'avion pour la Côte d'Ivoire. Le contrat s'est terminé le lundi. Le mercredi, j'étais dans l'avion pour la Côte d'Ivoire. Mon contrat a terminé le même mois où j'ai pu avoir le billet. Donc, c'était vraiment, cet emploi n'était pas pour rien. C'était un emploi qui était destiné à ce que je puisse aller chercher l'homme que Dieu m'avait promis. Et normalement, ma mère aurait dû me bloquer parce que les mamans, on est tellement protecteurs. Tu vas dans un pays, le pays était en guerre. Je suis arrivée là-bas, j'ai été accueillie par les militaires avec des armes à feu. Moi, je n'ai jamais vu une mitraillette de ma vie. Puis, en plus, on doit faire la file hein, pour passer à la douane. Le militaire arrive, il me dit, vous là-bas, là. Là-bas, je suis fantôme, mais je dis, ok, c'est ça, c'est le Libanais derrière qui l'appelle, parce que j'ai fait moi, Il dit, oui, toi, viens ici. J'ai fait, oh mon Dieu, parce que le Seigneur, tu m'as envoyé dans un pays. Tu sais. Puis le monsieur, il m'a pris comme militaire, il m'a emmené au début de la file. Et il a dit, passe les vérifications pour cette dame-là. Et les gens à la file commencent à se plaindre et puis ils disent, mais nous là, ça fait quand même une demi-heure, 45 minutes, on attend. Et le monsieur se retourne, il dit, il dit, ici, le chef des milices, c'est moi. Donc ici, vous ne voulez pas que quand je sois arrêté ici, là, vous la fermez. J'ai dit que la dame qui est là avait fait ses vérifications. Mais moi, j'ai peur. Parce que moi, dans ma tête, là, c'est bon, ça y est. Quand on est en prison, ma mère pourra même pas te défendre. Là, j'ai commencé à imaginer plein de choses. Mais en fait, le monsieur m'a aidé à passer chaque point, et quand le point, même pour récupérer mes bagages, j'étais avec moi, et au moment de sortir, il me serre la main et puis il m'a dit, quand j'ai vu ton passeport, il dit, la personne qui a signé en bas pour le visa, il dit, c'est ma soeur. Ah. Il dit, c'est ma petite soeur. Il dit, elle est à Ottawa, c'est elle qui signe en bas. Là, j'ai fait comme, oh my God. J'ai dit, Dieu, tu m'étonneras toujours. Tu m'étonneras toujours. Donc, c'est comme ça que j'ai épousé, mon mari m'a vu la première fois. On s'est vu la première fois. On s'est regardé, hein, soyons sincères, là. On s'est jamais vu, là. Il m'a regardé la fois, OK, il fait trois fois ma taille. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, il fait les trois fois plus petit que moi. Mais on s'est mariés, j'ai fait trois semaines là-bas, on s'est mariés. Puis, beaucoup de gens se sont levés, se sont opposés à ce mariage-là, surtout là-bas, parce qu'ils pensaient que c'était la folie. La fille canadienne, elle est venue se chercher un copain. Elle va retourner là, puis elle ne va pas le faire venir, tout ça. Donc, moi, je suis revenue au Canada, j'ai commencé à prier, je suis rentrée en jeu. Et normalement, pour faire venir un Africain, surtout par le nord de l'Afrique, et puis les pays aussi en guerre, ça prend en 18 mois et 2 ans au niveau de l'immigration. Mon mari est arrivé au Canada en 4 mois. Il est arrivé tellement rapidement que lorsque je suis arrivée à l'église, le pasteur m'a dit, mais tu ne peux pas être marié? Pourquoi tu... J'ai dit, mais c'est mon mari. Il dit, non, non. Il dit, ça, c'est pas possible parce qu'il dit, mon diacre, ça fait 7 ans qu'il essaie de faire entrer sa femme. J'ai dit, ben moi, ça fait 4 mois de faire entrer mon mari. Il dit, comment tu as fait? J'ai dit, j'ai pas dormi. J'ai secoué le trône de Dieu. Quand tu veux quelque chose, là, quand tu veux quelque chose, tu dois être capable de te mettre à genoux et de secouer son trône. Le Seigneur te permet de le mettre. Tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve dans tout. Parce que quand il parle des dîmes offrandes, là, il te permet vraiment. Il te dit, oui, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si. Ça, c'est vrai. Mais Dieu, par exemple, quand tu secoues son trône, son oreille, constamment, il entend ta voix. Tôt ou tard, il est obligé de tourner la tête et puis de regarder et de dire, Marie, qu'est-ce que tu veux? Marie, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, tu m'as donné un mari, là, s'il te plaît. 4 mois, c'est long, hein? 4 mois, c'est long. Marie, qu'est-ce que... Donc, Marie est venue comme ça en 4 mois. Et les gens, son pasteur n'a même pas voulu me marier. J'ai dû me marier civile d'abord, venir au Canada, me marier maintenant avec lui ici. Son pasteur a appelé après pour demander pardon. Parce que lui, il pensait vraiment que je voulais gâcher la vie de son jeune pasteur, parce que Marie devait prendre ma relève, c'était une grande église là-bas. Donc, il s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Donc, à chaque naissance, là, on leur envoie des photos. Ils voient que, ils sont rendus assez. Oh, ils ont eu deux paires de jumeaux. Donc, OK, mon frère, tu ne dors pas. Donc, les gens se moquent de nous comme ça, mais on a défié tous les pronostics, je dirais, tous les pronostics. Et Dieu n'a pas permis qu'on ait une vie facile, parce que bien que j'ai 6 enfants, je vous dis que mes 6 enfants, sans exception, sont tous nés handicapés. Il n'y a aucun de mes enfants qui soit normal. Aucun de mes enfants ne peut aller dans une école normale. Donc, là, tu te questionnes encore. Parce que tu dis ça, c'est pas possible. Et ils ont des troubles neurologiques qui font que dans le ventre, on ne pouvait pas savoir que l'enfant n'était pas normal. On ne voit pas. C'est quand l'enfant arrive à 3 ans, il ne marche pas. L'enfant à 4 ans, il ne parle pas. Mon dernier, là, il va avoir 4 ans le 21 mars, il parle en langage des signes. Mon fils n'a jamais parlé. Tous mes enfants sont dysphasiques, dyspraxiques, dyslexiques, dysorthographiques, ils ne peuvent ni lire ni écrire. Ce sont des ordinateurs qui lisent pour eux, des ordinateurs qui traduisent pour eux. Donc, c'est une particularité parce que tu es dans une église puis tout le monde te regarde. Tu as deux types de personnes. Tu as, tu vas dire, Elle va être une pécheresse et puis elle cache ça très bien. Puis la malédiction est sur elle. Et puis tu as l'autre qui dit, non, c'est que cette famille est spéciale. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'épreuves sur une seule et même famille. Et nous avions la possibilité. Moi, je dis que mon mari, en tant qu'Africain, un Africain, quand il annonce à ses parents que sa femme est enceinte, vous savez, c'est la fierté. En tant qu'immigrant aussi, vous savez, c'est quoi? Maintenant, essayez d'imaginer un homme qui doit dire à son papa, tu sais, papa, tous mes enfants, là, il n'y en a pas un qui est normal. Mon mari, il n'a jamais trouvé comment dire ça à son père. Il n'a jamais trouvé. Et ce n'est que dernièrement qu'on a su que, en fait, c'était moi qui étais porteuse d'un gène défectueux que j'ai transmis à chacun de mes enfants. Tu sais? Puis là, quelqu'un m'a demandé, la semaine dernière, quelqu'un m'a posé la question, j'étais allée faire opérer un de mes enfants, justement parce que quand j'ai opéré, c'est-à-dire que vous, vous prenez vos enfants, vous l'emmenez chez le dentiste, ah, on règle la voie. Mais un enfant handicapé, tu ne peux pas l'emmener chez le dentiste. Il se débat, il faut l'attacher. Donc, il a fallu l'intuber, l'endormir, l'intuber, faire tous les traitements, couvrir ses dents avec des protections spéciales parce que, d'autres, que les autres enfants n'ont pas. Parce que le dentiste sait que, comme enfant handicapé, brosser ses dents, ça reste une histoire. Mm. Donc, moi, ma vie actuellement, c'est ça. Ma vie, c'est un combat. Et une dame était assise, elle me dit, elle venait de Russie, je ne me trompe pas, puis elle dit, mon fils est dans la salle de réveil, il a 8 ans. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, il était venu pour ça, elle dit, oui, tout ça. Je ne sais pas pourquoi elle me parle, même pas. Je dis, ok. Donc, on jase, puis elle dit, mon fils, il est handicapé. Il dit, mon mari prend ça très dur. J'ai dit, ben moi, j'en ai 6 qui sont handicapés. Elle dit, pardon? J'ai dit, j'en ai 6. Elle dit, non, elle dit, c'est pas possible. Mais mon mari est assis de poing, puis j'ai dit, voyez l'homme là-bas avec la casquette. Elle dit, le jeune homme, parce que Marie, elle est très jeune. Elle dit, le jeune homme, j'ai dit, oui, c'est mon mari. Puis j'ai dit, nos 6 enfants sont handicapés. Elle me dit, mais comment tu as eu le courage d'en faire un deuxième, sachant que le premier n'était pas normal? Puis mon mari s'est retourné, mon mari ne parle jamais, hein, il, toujours, il s'est retourné, il a dit, quand tu veux des enfants, tu fais des enfants. Il a dit, si tu dois t'arrêter sur ce que toi tu aimerais toujours, tu ne feras rien. Tu ne feras jamais rien. Il dit, on voulait des enfants, Dieu nous a donné des enfants. Maintenant, Dieu sait comment sa gloire va se manifester au travers de ces enfants-là. Donc, ce n'est qu'une partie de mon témoignage parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est pour dire que le Seigneur m'a béni. Puis, malgré le fait que je suis une personne qui est constamment malade, je ne peux pas vous expliquer, mais ça, ça a commencé à la conversion, comme je vous ai dit. Après la conversion, je vous ai dit que j'avais eu un premier cancer. Enceinte de Jérémy, donc de mon deuxième enfant, je me suis tapé un cancer du col de l'utérus. Donc, les médecins rentrent dans la chambre, de manière grave. Vous savez comment sont les médecins au Québec. Ils rentrent à 2-3, puis ils disent, c'est positif. Puis là, je dis, qu'est-ce qui est positif? Parce que je sais que je suis enceinte, là, mon ventre est gros, là. Il dit, vous avez un cancer du col, on ne peut pas traiter une femme enceinte. Puis j'ai dit, je suis infirmière, je sais ça. J'ai dit, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que vous devez faire un choix. J'ai dit, mais il n'y a pas de choix. Où est-ce que vous avez vu un choix? Attends, je suis enceinte de 6 mois, puis toi, tu es en train de m'expliquer que tu as découpé mon enfant parce que j'ai un cancer du col. Moi, dans ma tête, et j'ai toujours été une femme de caractère, de conviction. Donc, déjà, le médecin a compris, il a dit, ok, donc vous refusez le traitement. J'ai dit, je refuse le traitement. Parce que le traitement va tuer mon enfant. De toute façon, on m'avait déjà dit qu'il y a une probabilité que déjà qu'il ne soit pas bien formé, tout ça, mais je ne veux pas rajouter ça. J'accouche de Jérémy, le cancer a régressé seul. On refait les tests, il n'y a plus de cancer. Donc, j'ai dit, imaginez si j'étais allée tuer cet enfant-là. Parce que les médecins m'ont fait peur. J'ai dit, ok, j'ai eu Jérémy. J'ai dit au Seigneur, on arrête là. Parce que le médecin a dit, ne fais plus d'enfant, c'est dangereux. J'ai dit, ok. Donc, je prends des injections. Là, c'est même plus là, les moyens ordinaires qu'on emploie pour faire ton enfant. Je prends carrément des injections tous les 3 mois pour m'assurer que je tombe pas enceinte. Donc, c'est le médecin qui me donne les injections. Il me donne des injections, donc ça fait que je n'ovule plus. Donc, tu as fait de menstruation, je n'ovule plus. Ça arrive. Mais mon mari remarque, par exemple, mon j'accouche le 12 février. En juillet, mon mari me regarde de loin. Il trouve que j'ai élargi des hanches. Mais là, je dis, pourquoi tu me regardes comme ça, Sylvain? Je dis, je sais, j'ai grossi. Hein? Je dis, je pense que je mange trop. Et... Mais le Seigneur lui avait montré que j'étais enceinte. J'ai dit, non, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas être enceinte. C'est impossible. J'ai dit, parce que je prends les injections. Ces injections-là, c'est écrit sur le papier. 99,9% que tu ne peux pas tomber enceinte. Donc, j'ai dit, c'est impossible. Maintenant, le pasteur vient. Il prie pour nous. Et pendant qu'il prie, il dit, oh, Seigneur, bénis maman Marie et les jumeaux qu'elle porte. Moi, j'ai dit, là, c'est... Écoutez, j'ai entendu, hein, mon mari a ouvert un œil. Comme ça, dans la prière, j'ai regardé mon mari. Le pasteur finit de prier. Je laisse le pasteur sortir de la maison. J'ai fait le thé, tout ça, là. Il sort de la maison, puis je dis, c'est vrai. J'ai dit, j'ai mis, là, il y a 5 mois, pendant ce que le pasteur a dit. Il a dit, Marie, si tu veux savoir ce qu'il veut dire, là, prends le téléphone, regarde, il est stationné, là. Donc, je prends le téléphone, je l'appelle avant qu'il décolle. Pasteur, oui, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Mais quand tu priais, là, tu parlais de jumeaux, là. J'ai dit, je comprends pas. Il dit, oui. Il dit, pendant que je priais, Dieu m'a dit que tu portes 2 bébés. J'ai dit, what? J'ai dit, mon fils a 5 mois. J'ai dit, j'allais pas encore. Il dit, tu es enceinte. J'ai dit, non, Isaac, ça c'est au mois d'août, 25 août. Je vois, je me rappelle la date tellement ça m'a traumatisée. J'ai laissé 2 semaines passer. Tous les tests de grossesse que j'ai faits sont négatifs. Tous les tests en magasin, là. Donc, moi, je continue à croire que je ne suis pas enceinte. Jusqu'à ce que mon mari dit, va faire une échographie. Donc, j'appelle l'ancien hôpital, qui est traumatisé déjà par moi à cause de mes fils, qui veut toujours rien savoir de moi, voilà, Victoria. Donc, il dit, ok, présentez-vous à 7h30, je me présente. L'infirmière qui me suivait enceinte de mon fils, elle me regarde, elle dit, don't tell me you're pregnant. J'ai dit, non, je suis pas enceinte. Je dis, c'est mon mari veut que je fasse une échographie, tout ça. Il dit, ok, on fait l'échographie. La dame se retourne et dit, oh, congratulations. Elle dit, vous avez un beau bébé. Bon. Le premier choc, là, je devais commencer déjà à aller, le premier choc. Ok, je suis enceinte? Oui. Ok. J'ai dit, dites-moi quel âge ça. Dites-moi. C'est comme ça, là. J'ai dit, dites-moi quel âge ça. Puis elle tourne l'écran. Elle dit, vous avez volé le punch. Il y en a tout. There's two baby. J'ai fait comme, ok. Ok, écoutez, je pleurais. Je suis arrivée dans la salle d'attente. Toutes les femmes enceintes caressent leur ventre. Je suis assise comme ça, je pleure. Puis là, une vieille dame me dit, mais pourquoi pleurez-vous? C'est pas bon, hein, qu'on enseigne. J'ai dit, parce que mon fils a 5 mois, puis j'attends les jumeaux. Elle dit, oh, poor you! Elle dit, pauvre vous, je comprends, je comprends. J'ai dit, ok, mais là, c'est encore un test. Parce que le médecin m'appelle, ils me font rentrer dans un petit bureau, il est seul avec moi devant le bureau. Il s'approche avec les petites chaises rondes, là, que les gynécologues utilisent, là. Il roule sa petite chaise, et puis il se met devant moi. Et moi, je le regarde, je dis, comment un avortement peut être thérapeutique? Je dis, comment vous pouvez combiner ces deux mots ensemble? Il dit, oui, quand on voit que l'enfant est mal formé, tout ça. Mais quand je lui dis, ok, est-ce que mes jumelles sont mal formées? Mais, en fait, les deux bébés, ça ne pas si les deux filles sont mal formées. Il dit, non, mais il dirait votre fils, là. Vous avez fait 2 mois en soins intensifs, tout ça, là. Parce que la grossesse avait été très dure. Il dit, ça va la même chose pour vos filles. Là, moi, j'ai dit au médecin, j'ai dit, moi, je suis croyante. J'ai dit, le Dieu que je sers, c'est lui qui a créé les mathématiques. Il a compté 1, il a compté 2. Quand il dit, il y en a 2, je vais faire les 2. Puis là, il a dit, oui, mais 1 peut mourir en route. Donc, on peut en enlever 1. Vous voyez comment les médecins ne vont pas toujours avaler ce qu'ils disent. Moi, j'ai travaillé longtemps avec les médecins. Et quand on enlève 1, ça laisse de la place pour le deuxième. J'ai dit, mais ceux qui portent des triplets, là, ou la dame aux États-Unis qui en a fait 6 là, pourquoi vous n'êtes pas allé lui proposer le remède que vous me proposez? Il dit, pourtant je n'en ai que 2. Donc j'ai dit non. Elle dit, okay. Il dit ok, j'ai dit si un enfant va mourir, il mourra dans mon ventre parce que tu auras choisi qu'il va mourir. Mes jumelles ont 8 ans aujourd'hui. Mmh. Et elles sont nées, elles n'ont jamais été sous respirateur artificiel. Elles pesaient 3 kilos chacune. Non, c'est pour vous montrer, c'est pour dire quoi? Dieu va mettre sur ton chemin des épreuves. C'est pour te tester. À celui que Dieu donne beaucoup, il va demander beaucoup. Mm-hmm. Dieu m'a donné beaucoup. Déjà, en retirant de ce type de famille, les liens que j'avais, Dieu m'a donné beaucoup. Il me demande beaucoup. Donc, vous voyez, la liste est terminée. Cette année, on m'a encore sorti un nouveau diagnostic. J'ai eu plus de 30 transfusions. Je suis transfusée chaque mois. Cette année, de mars à juillet, j'ai eu 30 de transfusions. Donc, je me tape la route, 2 heures de route pour me rendre parce que je vais à Longueuil, j'habite la rive nord. Je vais là-bas, je m'assois. On fait la transfusion qui dure 3 à 4 heures. Après ça, mon mari vient me chercher. On se tape le trafic, on rentre, il est 18 heures. 2 fois par semaine. À la fin, j'étais tellement fatiguée, j'ai dit, laissez les tuyaux. J'ai dit, mettez tout ça là. Ils ont dit, oui, c'est vrai, l'infirmière de formation. Je dis, oui, mettez tout ça là, stérilisé. Bon, on mettait un bandage là, je rentre à la maison avec ça. C'est comme ça, ça fait 4 ans que je n'ai pas de repos. Ça fait 4 ans que je suis transfusée. Et les médecins n'ont toujours pas trouvé de quoi je souffre. Tout ce qu'ils voient, c'est que quand mon corps fabrique les globules rouges, ils se détruisent. Donc, ils ont cherché. Ils ont dit, c'est une noire, anémie falciforme, thalassémie. Thalassémie A, thalassémie bêta, écoutez, ils vont sortir tous les noms qui peuvent exister. Leucémie, peut-être une leucémie lymphoblastique. Là, ils ont fait comme des prélèvements dans la colonne. Ils ne trouvent pas de quoi. Ils disent, on ne sait pas pourquoi votre corps détruit les leucémies. J'ai dit, OK. Donc, je continue à faire ça. Puis là, au mois de décembre, j'ai eu un accident de voiture avec les enfants. C'était la première fois que ça m'arrivait. Puis j'avais réalisé que j'ai eu comme un blackout, je ne sais pas comment dire ça, comme entre le stop, entre le moment où j'ai fait le stop et le moment où j'ai tourné le volant, je ne me rappelle pas. Je me souviens du stop et je me souviens de l'accident, mais je ne me souviens pas avoir tourné. Et c'est là que je suis rentrée, j'ai dit, c'est trop, on dirait que je perds des petits moments là, que je ne me rends pas compte. Et c'est comme ça que mon mari maintenant m'explique que la nuit quand tu dors, tu as de l'espace. Mon mari, il n'est pas médecin. Parce que si c'est moi qui avais observé ça, j'aurais dit, il y a quelque chose de neurologique qui se passe. Mais lui, il ne sait pas. Donc lui, tout ce qu'il voit, c'est que la nuit, quand je dors, je bouge beaucoup, ça donne des coups. Donc lui, il pense qu'en fait, c'est peut-être un cauchemar, tout ça. Mais en fait, ce sont des convulsions. Lui, il ne sait pas que ce sont des convulsions. Donc là, finalement, je rencontre le neurologue le 16 décembre. Le neurologue dit que je ne peux plus conduire. Parce que là, il ne sait pas exactement de quoi je souffre. Je me suis levée le 16 décembre, j'étais aveugle. Là, je vois. Mais j'étais aveugle. Ma vie a tellement baissé que je suis obligée, là, j'ai une Bible maintenant avec des grosses écritures, j'ai dans la trentaine. Je ne sais même pas de quoi je souffre. Donc, c'est la deuxième fois que je me réveille où je suis complètement aveugle. Je me lève, je ne vois pas. Je mets mes lunettes, je ne vois toujours rien. J'entends, je peux me lever, m'asseoir, mais je ne vois rien. Donc, là, maintenant, le médecin dit, ben, Marie, il dit, ça semble être une tumeur cérébrale. Il fait, ah. Après, il m'a dit, mais ça pourrait aussi être la sclérose en plaques. Je fais, ah. Et j'ai dit, OK. Donc, deuxième diagnostic, hein, parce qu'il n'est pas certain. Il dit, ça prête 2 mini AVC. Bon, j'ai dit, dans tout ce que tu m'as sorti, là, en fait, c'est quoi qui est bon? Parce que là, tu m'as sorti 3 diagnostics, mais il n'y en a aucun qui est intéressant. Il dit, mais ça prête de l'épilepsie. J'ai dit, oui, mais l'épilepsie à l'âge adulte, c'est vraiment handicapant. Parce que les médicaments pour l'épilepsie, c'est lourd. Donc, actuellement, je suis sous traitement et c'est lourd parce que dès que je prends la médication, c'est comme si tu avais bu 2 bouteilles de vin complet là. Tu n'es même plus. Tes enfants ne peuvent plus te parler parce que le médicament empêche ton cerveau d'avoir des décharges électriques. Donc, tout ton cerveau est endormi. Donc, n'importe quoi, on va dire, je peux vider ton compte de banque, tu as donné ta carte d'eau, parce que tu n'es plus là. Donc, présentement, comme je suis en traitement, mon mari est stressé, il ne dort plus. Parce que je pense qu'il commence à fatiguer aussi d'avoir une femme que tu épouses et puis jamais, depuis qu'on est mariés, j'ai jamais passé une année, sans être à l'hôpital, jamais. Jamais. Et c'est tellement jamais, 2015, là, l'année s'est passée super bien. Toute l'année, hein, super bien. Je me réveille le 23 octobre, donc on est à la fête 2015, et je suis en train de dire, oh, thank you God, première année sans aller à l'hôpital, je vais même faire vacciner le bébé. Je reviens, je m'assois devant la télé, je le couche à plat ventre sur mes genoux pour le bercer. J'ai mal au ventre, je dis à mon mari, ah, c'est comme un coup de poignard. Il dit, OK. Il dit, appelle ta soeur, il dit, quand même, allez vérifier. Arrive à l'hôpital, mes intestins éclatés. Ils ouvrent, j'avais, à cause des césariennes, hein, donc mes intestins, il y avait des adhérences. Le médecin dit que quand il a ouvert, lui, il pensait opérer pour 45 minutes. Il a dit à mon mari, assieds-toi là, s'il te plaît, c'est une question de 45 minutes, pas plus. J'ai fait près de 8 heures. Quand il est sorti, le médecin est sorti, il dit, j'espère que Dieu vous croyez, mais il est grand. Parce qu'il a dit sincèrement, il dit, c'est le cas le plus lourd que j'ai eu. Il dit, quand j'ai ouvert le ventre de votre femme, il dit, tous ses intestins étaient entremêlés. Donc, il dit, probablement que votre femme souffrait, mais vous ne disiez pas. Mais en fait, moi, j'avais mal au ventre, mais nous, les femmes, là, écoutez, vous avez 6 enfants handicapés, c'est pas ton mal de ventre que tu as calculé. Tu calcules le lunch, le bus qui va passer, là, tu sais. Donc, moi, je ne me suis jamais arrêtée, en fait, sur moi-même. Mais le médecin, il a dit tout, il a dû couper, là, vraiment, au ciseau. Et quand il est venu pour refermer le muscle, le muscle s'effritait. Il n'est plus capable de refermer mon ventre. Donc, il a fallu qu'il mette une plaque de téflon. Donc, c'est cousu artificiellement, là, pour garder mes organes à l'intérieur. Et ça m'a pris 1 an et demi pour être capable de me remettre. Et encore aujourd'hui, quand je conduis, je ne peux pas conduire trop longtemps. Parce que là où ils ont cousu, quand je descends du véhicule, ça me fait mal. Non, c'est pour dire qu'on pensait avoir la paix, 2015, hein? Donc, 1 an pour se remettre, 2007, 2017, encore une pense à une tumeur cérébrale, encore les traitements. Donc, vraiment, en tout cas, c'est pour vous encourager parce que je ne sais pas où je vais être. Peut-être qu'Annie, elle va venir te dire, ma fille est décédée. OK? Mais, je vais vous dire une chose, c'est que, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de triste? Non. Donc, quand vous traversez des épreuves, que vous soyez stérile, que votre mari soit parti, vous vivez seul. Hein? Vous pensez que, ou bien, vous avez du mal à manger. Le loyer n'est pas payé. Il faut arrêter de douter que c'est parce que Dieu ne vous aime pas. En fait, c'est parce que Dieu a confiance en toi. Parce qu'il sait que, peu importe les circonstances, là, si tu as les regards fixés sur lui, Dieu, là, il ne va jamais laisser quelqu'un rire de son nom. Donc, quand tu vois que c'est difficile pour toi, tu dis, Seigneur, pas à cause de moi. Fais-le à cause de Jésus. À cause du sacrifice qu'il a fait à la croix, ne permets pas que telle personne se moque de moi. Comme toi, tu ne permettrais pas qu'on se moque de ton fils. Dieu nous a adoptés, il a dit, il nous a adoptés. C'est-à-dire qu'il t'aime, le même amour qu'il a pour Jésus, il a exactement la même intensité pour toi. L'adoption, c'est ça. Les gens qui sont stériles, qui adoptent, vous diront que même si l'enfant n'est pas sorti de leur ventre, l'amour qu'il ressent est aussi fort que l'amour d'une mère qui a porté l'enfant. Donc, ne jamais douter. C'est pourquoi ce soir, je sentais que je devais dire, je ne sais pas ce que vous traversez, mais rappelez-vous d'une chose, si je peux vous laisser un souvenir, c'est un moment donné, c'est difficile, rappelez-vous de moi, ne serait-ce que de mon sourire. Puis rappelez-vous que jamais je n'ai regretté d'avoir choisi Jésus. Jésus m'a choisi, mais je ne regrette pas de l'avoir suivi. Et on a tous un temps pour partir. Et moi, quand les gens me disent, on ne sait pas c'est quand tu vas partir, je leur dis toujours, what about you? On ne sait pas. Hein? Chaque jour, vous ouvrez TVA, oh, j'ai fait des 17 ans à porter disparu, vous êtes plus âgé là. Donc, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de demain? Puisque de toute manière, tu n'as pas de garantie qu'en prenant l'auto, tu vas te rendre. Quelle garantie tu as? Et moi, et le Seigneur, quand j'ai eu le diagnostic, la même semaine là, que j'ai eu le diagnostic, on parlait à TVA de la jeune fille de 18 ans qui conduisait, que sa voiture a frappé un poteau électrique le 25 décembre. Sa voiture frappe un poteau électrique, elle n'a pas bu. Elle n'est pas droguée. Elle voit les fils réflexes, et je comprends, elle voit les fils, elle se dit, si je reste dans l'auto, l'auto va prendre en feu. Elle ouvre la porte, elle pose son pied à terre. Mais on ne réfléchit pas, c'est de la neige. La fille, elle était électrocutée. On la retrouve 4 heures après. Maintenant, qu'on la réveille là, c'est pour lui dire, bonjour, vous êtes à l'hôpital, est-ce qu'on peut couper vos deux bras, vos deux jambes, sinon c'est la mort, qu'est-ce que vous choisissez? Elle, son dernier souvenir, c'était un poteau qu'elle voulait éviter. Et je me suis dit dans ma tête, hey, moi je peux encore serrer mes enfants dans mes bras. Je peux encore les bercer. Elle, la jeune fille, elle a 18 ans. Et déjà, il manque la moitié de son corps. Donc, quand vous pleurez, là, pensez à toutes les grâces que Dieu fait dans vos vies. Des grâces que vous ne vous rendez même pas compte. Que le Seigneur vous bénisse.